Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Retrait des pays de la CEDEAO, qu'en pense la classe politique sur le thème du grand dialogue de ce soir. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont annoncé le 28 janvier dernier leur retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Une partie de la classe politique estime que cette décision va compliquer davantage la crise multidimensionnelle du pays. Dans le grand dialogue d'aujourd'hui, on en parle avec Alou Badarasako, coordinateur par intérim de la coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. Bonsoir, monsieur Sako.
Bonsoir.
Alassane Abba, secrétaire général de la Convergence pour le développement du Mali. Codem, bonsoir.
Bonsoir.
Noun Togo, président du parti Union pour la sauvegarde de la République, ISR, proche du gouvernement. Bonsoir, monsieur Togo.
Bonsoir.
À la présentation, je suis Mrana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
On commence avec vous, Noun Togo, proche du gouvernement. Quelle lecture faites-vous d'ailleurs de cette sortie annoncée de l'AS de la CEDEAO?
Bon, l'analyse que mon parti, d'abord, nous avons fait une déclaration pour dire clairement notre position pour soutenir le gouvernement pour le retrait. L'argument utilisé, c'est les trois arguments que le gouvernement a utilisés premièrement. D'abord, dévier l'objectif de la CEDEAO, créée par le père de l'indépendance, par les premiers responsables en son temps dans les années 1975. Il s'agit de Moussa Traoré, militaire, Holtvalta en son temps par aussi un militaire, et au Niger, plus les autres pères qui l'ont aidé à créer la CEDEAO. L'objectif était très clair, c'est faire circuler les biens et les personnes pour développer l'économie et faire en sorte que nous puissions s'épanouir pour aller vers le développement économique, politique, social de nos regroupements. Deuxième aspect, nous avons vu l'implication des la communauté, ça veut dire Macron, la France et les autres partenaires qui s'impliquent précisément de la France pour dévier les décisions. Si vous avez entendu, il y a seulement des mois, où Macron a dit clairement que je vais appeler le président du Nigeria, le président de la CEDEAO, pour lui donner des instructions et de prendre des décisions contre le Mali. C'est très clair, diffusé un peu partout. Pour nous, ce n'est pas un président Macron qui doit donner des directives à la CEDEAO. Et troisième aspect de la chose, c'est la non-assistance de la CEDEAO à l'armée malienne. Ça veut dire, lors de ce combat difficile, les trois pays, pour ne pas dire les trois pays, le Burkina Faso, le Niger, parce qu'ils étaient dans une situation très difficile, et ils ont accepté de violer encore leurs textes pour nous mettre sous embargo. Parce que nous savons, pour nous, l'embargo n'est pas prévu dans les textes, et ils ont violé les textes. C'est pour cela, aujourd'hui, nous pensons qu'en toute honnêteté, la logique était très claire. Il fallait sortir de la CEDEAO s'il ne peut plus nous aider pour que nous puissions développer nos relations sur le plan national et international, et s'ils sont manipulés par certains d'autres côtés du monde pour leur donner des directives, pour être des suivistes, ou on dirait des clubs des amis, pour s'entretenir, et si les décisions viennent d'autre part, parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, d'autres font des crimes, des coups d'État, comme le cas de la Côte d'Ivoire, comme aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal, mais il n'y a pas de réaction de la CEDEAO. Au contraire, d'autres sont salués et d'autres sont félicités.
Ces arguments annoncés vous ont convaincu?
Très bien, parce que c'est pour cela que nous avons fait un communiqué officiel au niveau de mon parti pour soutenir cette vision en disant que nous sommes d'accord, nous sommes de même longueur que le gouvernement, et la suite logique, c'est de faire en sorte de compter sur nous-mêmes pour que le développement puisse se faire au niveau, que ce soit sur le plan politique, économique et social, parce que nous ne pouvons pas continuer à tendre la main à d'autres que la CEDEAO qui est financée, même par la France ou l'Union africaine qui est financée par d'autres pays de l'Europe. Nous ne pouvons plus continuer à accepter ça. Il faut que nous-mêmes au niveau, vous avez remarqué que nous, notre structure aujourd'hui, c'est que c'est au niveau de nos pays que nous finançons. Nous ne demandons pas à la communauté internationale de financer. Avec les moyens de bord que nous avons, nous mutualisons l'ensemble de nos ressources pour lutter contre le terrorisme.
D'accord. Alou Badarasako, vous êtes de la coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali. Cette annonce du retrait de l'AS de la CEDEAO vous a-t-elle surpris?
Non, bon, ça ne m'a pas surpris parce que depuis un certain temps, je voyais qu'il y a quand même des brouilles entre ces pays et la CEDEAO. Donc, c'était prévisible que les trois pays décident de se retirer. Mais moi, je pense que normalement, ils ne devraient pas prendre une telle décision de retirer nos États de la CEDEAO. Parce que je pense que la décision, elle est tellement importante que normalement, ce sont les peuples de ces pays-là qui doivent prendre une telle décision. Surtout que ceux qui ont pris la décision ne sont pas mandatés par les peuples.
Quand vous dites le peuple, il s'agit de qui?
Il s'agit des populations de trois pays.
Est-ce qu'il revient aux populations de saisir la CEDEAO, selon vous?
Non, ce n'est pas de saisir la CEDEAO, mais et qui ont pris la décision devraient au moins s'entretenir avec leur peuple pour dire que nous allons quitter la CEDEAO parce qu'il y a telle chose au niveau de la CEDEAO qui ne nous plaise plus. Mais cela n'a pas été fait.
Et qu'est-ce que vous pensez des arguments avancés par les autorités de ces trois pays de l'AS?
Bon, les arguments, moi je pense que ce qui se trouve derrière ces arguments-là, c'est que les échéances électorales arrivent. Et nos États savent que, bon, ils ne veulent pas tenir ces échéances-là. Et si ce n'est pas tenu, il y a des sanctions. Moi je pense que si on dit que la CEDEAO ne doit pas prendre des sanctions, que les sanctions ne sont pas prévues au niveau de la CEDEAO, mais les push aussi ne sont pas prévues dans nos constitutions. Nos constitutions disent que il n'est pas, un coup d'État est un crime imprescriptible. Et la CEDEAO est là pour vraiment préserver la démocratie dans notre espace. Et quand on dit chaque fois la CEDEAO est en train de prendre des décisions, comme si la CEDEAO est une organisation qui se trouve ailleurs, nous, nos États se trouvent ailleurs. Mais non, nos États ont été constamment, permanemment membres de la CEDEAO et ils ont toujours pris des décisions ensemble. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas aller aux élections parce qu'il y a la CEDEAO qui va prendre des décisions. On va dire on sort de la CEDEAO avec effet immédiat. Mais non, ce n'est pas ça. On ne peut pas sortir de la CEDEAO avec effet immédiat.
D'accord. Dans un communiqué, vous avez dit que cette décision est un acte nul et non avenu. Quelles sont, selon vous, la meilleure façon de saisir la CEDEAO pour ce retrait?
Vous déposez une lettre et là, il faudrait d'abord, en tout cas pour nous, il faudrait d'abord être mandaté par le peuple pour le faire. C'est ça l'argument fondamental. Moi, je pense que quand on est une transition, il faut organiser les élections, vraiment y partir, donner le témoin à des représentants élus par le peuple qui peuvent et qui doivent aller à une telle décision aussi grave.
Alassane Abba, vous êtes le secrétaire général de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM. Ce retrait immédiat est-il possible selon vous?
Bon, comme on a des militaires qui sont au pouvoir, tout ce qu'ils disent là, ils le font. Il ne faut pas croire qu'ils ne vont pas faire ça. Toutes les fois, ils ont dit qu'ils font quelque chose, quel que soit ce que ça leur coûte, ils vont jusqu'au bout de leur logique. Maintenant, il faut quand même se dire une chose. Quand on dit que la CEDEAO a laissé le Mali tout seul, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord de dire
avec
que la
les
CEDEAO...
arguments.
Je ne suis pas d'accord avec ces arguments.
Pourquoi?
Parce que en 2012, quand la guerre chauffait au nord du Mali, je me rappelle très bien, en 2012, la CEDEAO était venue et j'envoyais leur parlementaire échanger à l'Assemblée nationale avec nous en tant que parlementaire pour dire qu'ils vont envoyer des troupes au Mali pour venir écraser la rébellion du nord. Parce que le Mali est un pays de la CEDEAO qui compte. On était en train d'échanger avec eux quand il y a eu le coup d'État. Donc, ils n'ont pas eu le temps de venir à côté du Mali.
Et après ce coup d'État?
Maintenant, après, le pouvoir n'est pas légitime.
le pouvoir n'est pas légitime, c'est un pouvoir issu d'un coup d'État.
Mais c'est ce pouvoir-là même qui a amené la France également au Mali.
Pardon ?
Vous dites que c'est un pouvoir illégitime qui était là en 2012 après le coup d'État.
Oui.
C'est ce pouvoir illégitime, entre guillemets, selon vous, qui a fait appel à la France, qui a libéré le nord du Mali.
Non, je dis le coup d'État est illégitime. Parce que le pouvoir qui est venu après n'était pas... John Kounda n'était pas illégitime. Hein. John Kounda qui a appelé la France n'était pas illégitime. C'est ce que la Constitution du Mali indiquait. La Constitution indiquait que lorsque le président de la République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir devenait vacant, le président de l'Assemblée nationale...
Revenons à la table maintenant. Revenons à la table maintenant. Par rapport à la CEDEAO, vous dites que ce sont des militaires qui sont au pouvoir, qui ne sont pas légitimes, alors qu'on sait que la CEDEAO a été mise en place par des putschistes du Mali, du Niger, de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso et autres, du Bénin également, qui ont mis en place la CEDEAO. Est-ce ça veut dire que ça aussi c'est illégitime?
Non, la CEDEAO, initialement, c'était pour la libre, il l'a dit, c'était pour la libre circulation des biens, des personnes et des biens. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas inclure d'autres choses là-dedans. Après, la CEDEAO a inséré là-dedans la prohibition des coups d'État.
Mais si ces militaires également, des militaires reviennent au pouvoir et demandent leur retrait, ils n'ont pas le devoir.
Non, c'est pour rester au pouvoir, ils n'ont pas le devoir. D'ailleurs, ils n'ont même pas le droit de revenir parce que le protocole additionnel de la CEDEAO est très clair dessus. Aucun pouvoir ne saurait se prendre de l'espace CEDEAO par un putsch. À partir du moment où ils ont fait un putsch, leur père ne peut pas leur venir en aide.
La CEDEAO peut-elle refuser le retrait de ces trois pays? La CEDEAO peut-elle refuser le retrait de ces trois pays?
La CEDEAO, non. La CEDEAO ne peut pas. Ce que les textes de la CEDEAO disent sont clairs. Hein. Il ne peut pas empêcher. Mais il y a un délai où, à partir d'un an, lorsque le délai arrive à expiration, s'ils n'ont pas revu eux-mêmes leur position, alors là, dans ce cas, on considère qu'ils sont partis. C'est ce que les textes disent. D'accord. Maintenant, il faut simplement dire, moi, à mon avis, on s'est retrouvé dans une situation où on a fait un coup. Ce qu'on fait voir aux gens tout à l'heure par rapport à la CEDEAO, ce qu'ils voient tout à l'heure, bon, on va se retrouver. Mais en réalité, Sako l'a dit. C'est vraiment pour avoir les mains libres de gérer son territoire, son espace à lui, comme tu le voudras, et jusqu'au moment voulu. C'est ça la réalité.
D'accord.
On ne veut pas organiser des élections. Ce n'est même pas dans leur calendrier. On a toujours dit que l'élection présidentielle, ce n'est pas dans le calendrier du trio, là. Voilà. Ce n'est pas dans leur calendrier. Alors, il faut chercher des arguments. Sur la CEDEAO, initialement, était prête à agir auprès des forces armées maliennes pour écraser la rébellion. Mais au même moment où ils prenaient la décision, on a renversé le président élu. Et puisqu'on l'a renversé, on ne va pas amener des troupes pour maintenir aussi des putschistes au pouvoir. Pour quelle raison?
La CEDEAO a pourtant suspendu ces trois pays de toutes ces instances de décision. Alors pourquoi se mouvoir quand ces derniers décident de quitter du bon l'organisation?
Les gens pensent qu'ils sont en train de se mouvoir. Moi, je crois que ceux qui sont en train de se mouvoir, c'est nous-mêmes. En réalité, la CEDEAO n'a rien à perdre. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui perd beaucoup, c'est nous. On a beaucoup à perdre dans ça. Moi, personnellement...
Qu'est-ce qu'on a à perdre?
Il faut demander, pose la question aux Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Pose-leur la question. Un Malien m'a dit l'autre jour que quand la Mauritanie a quitté la CEDEAO, les Mauritaniens sont tellement... Ils étaient tellement coincés là-bas en Côte d'Ivoire que tous se sont fait passer pour des Maliens. Ils ont pris des cartes d'identité du Mali juste pour pouvoir circuler librement. Et les 300 000 francs qu'on leur faisait payer, des 300 000 francs, ils sont venus à 15 000, à 20 000 francs. Ça, c'est l'avantage que tu as lorsque tu es de la CEDEAO. Tu circules librement. Tu vas où tu veux librement. Tu fais le commerce. Moi, personnellement, je voyage très peu. Mais je sais que ceux qui voyagent, ceux qui font le commerce, ceux qui font les affaires de pays d'État à État,
ne peut pas dire qu'ils ne perdent pas quelque chose dans cette histoire-là. Non. Maintenant, je suis d'accord qu'on a à gagner parce que puisqu'on n'est plus de la CEDEAO, personne ne va nous dire qu'il faut organiser les élections demain ou après-demain. Ça, si on avait dit...
D'accord. Nous, en Togo, vous avez salué cette sortie annoncée de la CEDEAO. Est-ce qu'il s'agit-il, selon vous, d'un acte libérateur?
Vous savez, nous avons beaucoup réfléchi là-dessus, parce que pour sortir de ces des organisations pareilles, des regroupements, il faut que les techniciens travaillent. Au niveau de l'État, la responsabilité, on ne peut pas le prendre comme ça, mais lever. Il y a eu des réflexions. La logique était très claire depuis des mois.
Les réflexions, c'était quoi? C'était sur quoi?
Non, les réflexions sur le plan politique, sur le plan économique. Il y aura des accords, ceux qui sont intéressés.
Des accords avec qui?
Mais avec tous ceux qui sont intéressés.
Intéressés par...
Ça veut dire la Côte d'Ivoire. Il y a des accords qui seront signés entre les pays, entre eux.
Intéressés par l'AS?
Non, ça veut dire la circulation des biens et des personnes. Ça veut dire qu'il y aura des accords de façon bilatérale. On va signer des accords avec les uns et les autres. Parce que tout le monde a gagné. Parce que vous savez,
donc aujourd'hui... Vous estimez que c'est déjà acté?
Non, la c'est
sortie?
Déjà acté. Parce que dire qu'il faut demander le peuple, parce que hier, en rentrant avec les Moussa Traoré, le peuple n'a pas été consulté. Les gens ont pris des décisions politiques et se sont organisés pour mettre le regroupement ensemble. Aujourd'hui, avec des doses de la démocratie, on est arrivé. Et regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de coups d'État où la CEDEAO elle-même n'a pas intervenu. La Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'État constitutionnel du troisième mandat. En Guinée-Conakry, il y a eu un coup d'État constitutionnel. Et aujourd'hui, au Sénégal, c'est en train de se passer. Mais il ne peut pas avoir deux poids et deux mesures. Pour nous, s'il y a un coup d'État, on le condamne de façon claire et nette. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas ce pays. Mais ce que les gens oublient, donc les avantages que je vais vous le dire, aujourd'hui, sur le plan, en macroéconomie, si on arrive à analyser la situation, il y a le nombre de la population, il y a le nombre des revenus, il y a le nombre donc, des ressources. Sur le plan national, des trois pays réunis, si vous regardez aujourd'hui, si nous mettons ensemble nos efforts pour créer, d'après la logique...
Nous allons parler des opportunités plus tard.
Donc, il y a des avantages.
Quand on va écouter le ministre de l'économie.
Très bien.
Alors, pour vous, ce retrait annoncé vise-t-il à protéger et à mettre à l'abri les citoyens de ces trois pays menaces de la CEDEAO?
Non, rassurez-vous. Ils sont en train de tenter. Vous avez vu la sortie de l'Union africaine pour demander, même ils sont prêts à envoyer des émissaires pour venir négocier pour que les gens ne sortent pas. Mais à ce stade de la chose, si vous entendez le discours du président du Burkina Faso, c'est très clair. Il n'y a pas de retour, comme il l'a dit. Donc la position est très claire. Ils ne vont pas flancher, ils vont partir. Et ça, aujourd'hui, c'est acté. Ils vont partir. Maintenant, les avantages, les inconvénients, on le verra dans les jours à venir. Et une chose est sûre, la population n'a pas un mot à dire. Comme je l'ai dit, dès au départ, c'est qu'ils sont rentrés sans demander la population. C'est les mêmes militaires en son temps, dans les années 1975, qui ont fait rentrer le Mali. Et aujourd'hui, c'est les militaires qui ont fait sortir le Mali. C'est très clair. Hein? Et c'est acté.
D'accord. Quand Abba développait ses arguments, vous avez parlé de jurisprudence.
Tout à fait.
Allez-y.
Tout à fait. C'est-à-dire que quand Abba disait que c'est déjà fait, le Mali n'est pas encore sorti, l'article 19 du traité de la CEDEAO est très clair là-dessus, qu'on doit déposer l'intention, c'est-à-dire une lettre d'intention de sortir, et c'est au bout de un an, c'est-à-dire que le 28 janvier 2025, que si le Mali et le Burkina, le Niger, alors, ne sont pas toujours d'accord de rester à la CEDEAO. En ce moment, ça sera acté. Mais, pendant ce temps, et les avantages et les lois de la CEDEAO vont toujours être, c'est-à-dire, en œuvre dans ces pays-là. S'il y a sanction, parce que le Mali a déposé bel et bien un chronogramme pour tenir les élections en février-mars, si ces élections ne sont pas tenues, on peut être frappé par les sanctions de la CEDEAO. Ce n'est pas parce qu'on a dit... Parce que même dire on sort avec effet immédiat. Mais ça se comprend. Hein. C'est pour qu'en février, mars, on ne soit pas frappé. Alors que, c'est pas, même si on dit effet immédiat, cela ne veut pas dire que c'est-à-dire que les textes de la CEDEAO ne vont pas être appliqués. Ah non, ça
donc
va
vous
être
estimez
appliqué.
Que ces textes vont être appliqués?
Oui. Ça va être appliqué.
Ah bon?
Mais ça va être appliqué. Pourquoi ça ne va pas être? On est membre de la CEDEAO. Jusqu'à présent, on est membre de la CEDEAO. Jusqu'en janvier 2025, on est membre de la CEDEAO. Oui.
La CEDEAO dit avoir laissé la porte ouverte au dialogue. Qu'est-ce qui pourrait être négocié, selon vous, avec la CEDEAO?
C'est de tenir les élections. C'est la CEDEAO va dire qu'il faut tenir vos engagements. Ce n'est pas la CEDEAO qui a pris les engagements. Ce sont nos gouvernants qui ont pris des engagements au vu et au su des Maliens et de tout le monde. Pour dire que pour dire qu'on va tenir les élections en février-mars. Mmh. Et tout le monde était d'accord, les acteurs au niveau national, les acteurs au niveau international, tout le monde est d'accord sur ça. Et on dit, on reporte les élections à une date et puis on ne donne même pas de date. Non, c'est-à-dire qu'une transition doit vraiment tenir des élections et remettre le pouvoir à des autorités qui sont mandatées par le peuple pour que nous puissions vraiment recouvrer tous nos droits au niveau national et international, pour que nous puissions renouer encore vraiment les relations avec tout le monde, pour que le pays sorte de cette galère-là. Mais non, il faut sortir de ça. Hein. Il faut sortir de ça.
Est-ce que vous estimez que la CEDEAO elle-même respecte ses propres textes?
Que la CEDEAO ne respecte pas ses textes, mais déjà, tout le monde sait, même nous, au niveau national ici, notre texte a été violé. Quand on fait un push, la Constitution est violée, quand même. Et la CEDEAO, quand même, est là. La CEDEAO est dans les normes. On peut dire que, par exemple, prendre certaines sanctions, la CEDEAO le fait pour dissuader les États à ne pas aller dans les abus, à ne pas aller dans les crimes imprescriptibles. Est-ce que vous voyez? Mais sinon, dans les textes de la CEDEAO, il est dit qu'un militaire ne doit pas être au pouvoir.
Dissuader le pays avec des sanctions illimitées. Avec des sanctions illimitées, dissuader les pays avec des sanctions illimitées.
La CEDEAO a toujours posé ses sanctions et a toujours levé ses sanctions. Voilà. Et la CEDEAO est là pour le bien de toute la communauté de la CEDEAO, les hommes et les femmes.
Depuis le 26 juillet.
La libre circulation des biens et des personnes. Attendez. Mm-hmm. Vous savez, la CEDEAO est très utile. Hein. Vraiment. Les gens racontent. Il ne faut pas écouter ce que les gens de la rue disent. Quoi. Ils ne sont au courant de rien dans ce que c'est la CEDEAO. Moi, je suis parti. Un moment, on a fait...
La CEDEAO, je voudrais juste savoir, est-ce que la CEDEAO, c'est pour les dirigeants ou pour le peuple?
C'est pour le peuple.
Le peuple, au Niger, écoutez, s'il vous plaît, mm-hmm. au Niger, depuis le 26 juillet, date de coup d'État de juillet 2023, oui. Jusqu'à ce jour, il y a des sanctions qui sont en cours. On empêche l'entrée des médicaments pour le peuple.
Mais
vous trouvez ça normal?
Mais ça, c'est parce que ceux qui ont fait le putsch de faire revenir l'ancien président à sa place, yeah. Parce que c'est le peuple qui a élu ce président-là. Ceux qui sont venus par les armes,
mais est-ce que c'est le peuple qu'on condamne aujourd'hui? Est-ce que c'est le peuple qu'on condamne aujourd'hui qui a fait ce coup d'État pour sanctionner le peuple?
C'est pour qu'il puisse avoir un effet, afin que le peuple même se lève pour dire à ces gens-là de partir.
D'accord. Oui. Alassane, les appels à négociation pourront-ils pousser les trois pays à faire marche arrière?
Non, ces gens, je te dis, je ne me fais pas d'illusions. Hein. Moi, je dis que depuis le début, ces gens-là sont venus pour longtemps. Ils ne vont pas faire les élections maintenant. Ils veulent rester le plus longtemps possible et ils ne vont pas écouter quelqu'un. Ça, c'est ma certitude, la certitude que j'ai. Donc, quel que soit ce qu'on va leur proposer, ça va les renforcer d'ailleurs dans leur conviction. Parce que plus on négocie, plus ils pensent comme étant même peut-être une faiblesse des autres. Et et que c'est les convaincus qui sont dans le droit chemin. Donc moi, je crois très sincèrement que c'est des gens qui sont partis pour longtemps. Parce que quand ils voient l'AES, qu'ils sortent tout à l'heure de leur chapeau, c'est pas quelque chose qui va se construire en un an, deux ans. Hein. C'est pour longtemps. Ça veut dire que les militaires qui sont au pouvoir dans ces trois pays vont conserver le pouvoir le temps qu'il leur faut pour construire leur architecture. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que très sincèrement, nous n'avons jamais été d'accord avec cette façon parce que si jamais ça restait comme ça, c'est toute la sous-région qui risquera de connaître des coups d'État. Nous avons vu les premiers coups d'État dont tu parlais, hein, qui a conduit les Seni Kounché et autres là à venir. C'est des militaires qui sont venus, ils ont délogé les présidents, ils ont pris le pouvoir, mais ils ont eu au moins le réflexe et la bonne vision de dire, bon, créons la CDAO pour qu'on puisse circuler librement, pour que nos populations puissent circuler sans entorse. Ils ont eu ce réflexe-là. Maintenant, leurs prédécesseurs ont dit, bon, nous allons rajouter à ça une chose, quelque chose, c'est-à-dire qu'on va prendre une disposition nouvelle qui va prohiber les coups, pour que désormais, les coups d'État ne reviennent plus. C'est ça, c'est la promotion de la démocratie. À partir du moment où ça a été fait, le Mali même est signataire. Le Mali était d'accord avec ça. Figurez-vous.
Mais est-ce que les démocrates respectent ces engagements-là qui sont dans
mais ce n'est pas pour ça qu'on va renoncer à la démocratie. Non. S'il vous plaît, on en veut une erreur d'un démocrate ne fait pas que la démocratie n'est pas un bon régime. Je ne suis pas d'accord avec ça. Une erreur d'un militaire ne fera pas qu'on va dire que tous les militaires sont mauvais. Les démocrates qui sont arrivés au pouvoir, effectivement, ils ont passé à côté de la plaque parce qu'ils ont confondu le pouvoir donné par le peuple. Ils l'ont confondu à une chose personnelle. Ils ont géré ça comme ils le voudraient, avec complaisance. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Mais ça ne donne pas à un militaire le droit de venir faire intrusion et dire, bon, je suis
juste. Alou a donné tout de suite une réponse plus ou moins incomplète quand j'ai posé la question à savoir est-ce que la CEDEAO respecte ses propres textes.
La CEDEAO s'efforce de respecter ses textes. Mais la CEDEAO a failli à plusieurs reprises. C'est pourquoi nous sommes dans la situation où nous sommes là.
Donc elle viole ?
Elle a violé plusieurs fois. Ça, il faut le reconnaître. C'est pourquoi nous sommes dans la situation où nous sommes. Si la CEDEAO a été dure, véritablement dure et intransigeante sur tous les cas de manquement, on n'allait pas nous retrouver dans cette situation. Effectivement, quand il dit que les tripatuages des textes qui conduisent à des troisièmes mandats, c'est une violation des textes de la CEDEAO. Ils ont laissé passer à plusieurs reprises. C'est comme le coup d'État.
Oui.
Sauf qu'ici, c'est fait de façon un peu un tour de passe-passe. Tu as l'électorat avec toi, tu as le pouvoir, tu as l'argent, tu as la majorité avec toi. C'est très facile à faire passer. Sans les armes. Mais ici, tu n'as rien. Tu te lèves un matin avec tes armes, tu descends comme la situation au Niger, tu prends ton chef, tu le mets au Niouf. Bon, tu prends le pouvoir. C'est les Nigériens qui, en réalité... C'est la junte militaire du Niger qui est à la base du malheur que vivent les Nigériens aujourd'hui.
D'accord.
Pourquoi eux qui ont pris le pouvoir en otage, qui ont pris le président en otage, n'avancent pas pour qu'on en allège un peu les sanctions par rapport Chez nous, là, on a allégé les sanctions parce qu'on a donné une date. Le Mali était sous sanctions. On a donné un chronogramme. Le chronogramme qu'on a donné a permis de lever les sanctions sur le Mali. Mais comme il l'a dit, sachant que le problème
est-ce que au Niger, la CEDEAO a cherché réellement à négocier avec les militaires? Elle a tout de suite annoncé une menace d'intervention militaire.
C'est ce qu'il devrait faire. Parce que la façon de faire du Niger, là, ça diffère de notre façon.
Mais est-ce que si on veut avoir un nouveau, si on veut avoir un bébé
et du Niger, le Mali, c'est le peuple qui est descendu contre un président élu. C'est totalement différent. C'est les Maliens même qui ont appelé les militaires, ils leur ont facilité la tâche, ils leur ont dit d'aller prendre le président.
Au Niger, on a un président qui n'avait absolument rien gâté, qui maîtrisait le point de, au point de vue sécurité la situation. Son aide de camp se lève un jour, le chef de ses services de sécurité, ou bien ce qu'il est, il se lève un jour, il le coffre.
D'accord. Vous avez énuméré quelques impacts qui vous ont été annoncés par des ressortissants de la Côte d'Ivoire, selon vous, sur les questions lorsque il y a eu la sortie de la Mauritanie de la CEDEAO. Quel impact, selon vous, cette sortie pourrait avoir sur les ressortissants de l'AS qui voyagent, qui résident ou qui séjournent dans ces pays de la CEDEAO? En dehors de ce que vous avez affirmé concernant les gens de la Mauritanie, pour les gens de la
S. La façon dont la sortie a eu lieu, parce que la sortie ne s'est pas passée de façon orthodoxe. On dirait que c'est des gens qui sont fâchés, donc ils bisent, ils cassent tout pour sortir, pour faire mal, pas à eux-mêmes, pour faire mal à l'autre. Sachant très bien qu'effectivement, leur sortie peut affaiblir et va affaiblir effectivement l'organisation en tant que telle. Donc, la façon dont ça s'est passé, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas économiste, mais ce que le ministre a dit là, par rapport à arrêter les tarifs et autre chose, là, ça dépend. Hein. Ça dépend.
Bon, admettons que le retrait est consommé. La CEDEAO serait-elle affaiblie en conséquence?
Le retrait est consommé, la CEDEAO
serait-elle affaiblie?
Moi, je ne veux pas. Si y a affaiblissement, c'est l'AS qui est affaibli. Parce que de toutes les façons, la CEDEAO conserve parmi eux les États les plus puissants économiquement sont de l'autre côté. L'AS, là, qu'est-ce qu'ils ont si ce n'est pas le Mali, le Burkina et le Niger? D'accord. Qui sont tous des États qui vivent, si tu veux, sur perfusion d'autres États.
Ils n'ont rien. Nous, Togo, vous qui êtes proche du gouvernement, admettons que le retrait est consommé. La CEDEAO serait-elle affaiblie en conséquence?
C'est pour investir des longues années et puis avoir des retombées. La Côte d'Ivoire, désormais, n'aura pas. Donc, nous ne passons plus par la Côte d'Ivoire et ni par le Sénégal. Ils sont même, eux aussi, dans des situations très difficiles. On ne sait pas ce que ça va donner avec la CEDEAO. Si ce n'est pas un coup d'État dans les jours à venir pour qu'ils puissent nous rejoindre. Et aujourd'hui, nous avons des partenaires stratégiques qui nous aident donc, pour que nous puissions faire ravitailler nos populations par les deux ports. Que ce soit le port de Lomé et que ce soit le port de la Guinée. Et aujourd'hui, nous continuons à travailler avec eux. Les économies sont en train de travailler. Nous disons, au niveau de la population, ça veut dire la masse de la population, sur le plan économique, aujourd'hui, les ressources de nos États vont nous permettre d'avoir beaucoup de moyens. Et puis, dans les jours à venir, comme nous l'avons dit, créer la Banque centrale. Et nous travaillons pour faire en sorte d'avoir nos moyens. Au lieu que le Mali seulement crée donc, notre monnaie, nous, les trois pays vont se donner la main et créer des monnaies ensemble pour que ça puisse avoir au moins des retombées sur le plan international. D'accord. Vous savez, sur le plan économique, aujourd'hui, l'ensemble de nos achats, si on fait donc des commandes sur le plan international, ça passe par la Banque centrale française.
On va en parler tout de suite. La sortie de la CEDEAO offre des opportunités de développement économique dans le secteur tel que l'agriculture et l'énergie, selon le ministre de l'économie et des finances. Pour lui, en restant dans la CEDEAO, le Mali perd 120 milliards de francs CFA sur les tarifs des exportations, suivant la réaction de Alousseini Sanou.
Quand nous regardons les exportations, toutes nos exportations sont presque tournées vers les pays hors la CEDEAO, parce que le Mali exporte essentiellement de l'or, le coton, les intrants, et seul le bétail sur pied, le bétail qui est exporté vers les pays de la CEDEAO, et l'exportation globale vers les pays de la CEDEAO représente environ 19% des exportations. Ce qui veut dire que le Mali a à peu près un manque à gagner de 120 milliards aujourd'hui du fait qu'il est dans la CEDEAO. Parce qu'il y a le tarif extérieur commun, qui est le tarif qui est appliqué sur toutes les importations. C'est un taux de 18% qui s'applique. Donc tout ce qui est taux de droit de douane, qui est aussi entre 65 et 45%, selon la nature des différents produits, on ne les applique pas. Ce qui fait que le Mali important plus de 70% de cette zone, le Mali ne bénéficie pas, donc on a un manque à gagner d'environ 120 milliards. À l'inverse, nous exportons en dehors de la zone. Ce qui fait que nos exportations ne bénéficient pas de ce tarif extérieur commun. Des pays de la CEDEAO hors UMOA représentent à peu près 125 milliards et les pays de l'UMOA 120 milliards. Ce qui fait que le Mali restant dans l'UMOA, on a un manque à gagner net de 21 milliards du fait que nous sommes dans la CEDEAO. Et si nous quittons la CEDEAO, le budget va automatiquement sentir un accroissement de 21 milliards.
Nun Togo, vous avez la parole et vous gardez la parole. Cette déclaration vous réconforte-t-elle?
Non, c'est très clair dans la logique concernant les bétails, ce qui s'est passé. Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que les techniciens sont en train de travailler, c'est de travailler pour que nous puissions désormais avoir des abattoirs de normes internationales. Et les abattages, tout ce qu'il fallait faire au niveau de la transformation de nos viandes, tout ce qu'il faut, il faut commencer à travailler. Et aussi, nous exportons souvent les sucres et tout ce qui se passe. Aujourd'hui, il faut commencer à réfléchir comment nous pouvons, entre nous, les trois pays, se ravitailler à travers comment nous pouvons créer aujourd'hui des usines, voir comment écouler ces produits-là, si réellement, au temps de Modibo, ils ont créé des usines et que ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas, il y avait un problème de marché, donc qui fait que la gestion posait problème. Aujourd'hui, si ces trois pays se donnaient ensemble avec la population, avec les ressources, nous pouvons redynamiser l'ensemble des secteurs, que ce soit politique, économique et au niveau même de l'école, faire en sorte que nous puissions travailler. Au niveau de l'agriculture, c'est très clair. Aujourd'hui, nous avons l'eau, nous avons la terre, nous pouvons cultiver au lieu de continuer à amener à manger donc de l'extérieur et que nous puissions commander des riz ou des sucres de l'extérieur, c'est de nous mettre au travail donc pour que d'accord. Nous puissions faire en sorte que la production puisse suffire la population et penser à développer ça. Pour ça, je dis dans l'ensemble de ces secteurs, on sait les produits qui viennent de l'extérieur. Comment ici créer les conditions pour que nous puissions produire ces produits-là? C'est de faire en sorte que nous puissions aller vers ça. Et dans les années à venir, nous sommes obligés de nous prendre en charge pour ne plus compter à tendre la main. Avec 60 et quelques années, nous avons senti que nous n'avons pas pu développer l'ensemble de nos secteurs.
Alou Badra Sakho, selon la déclaration du ministre de l'économie et des finances, le Mali reste dans la CEDEAO, perd 120 milliards de francs CFA sur les tarifs d'exportation. Si le Mali sort, il va économiser plus de 21 milliards de francs CFA. Cette déclaration est-elle convaincante selon vous?
Vous savez, le texte dont il a fait mention, le tarif extérieur commun, ça ne vient pas ex nihilo. Hein. Ça a été bâti au sein de la CEDEAO. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités. Vous voyez, il y a l'Europe, il y a la CEDEAO, il y a d'autres entités. L'Europe a dit, quand on est, on veut qu'il y ait un accord de partenariat économique entre nous et les pays de la CEDEAO. Et l'APE, quand tu prends les accords de partenariat économique, s'il n'y avait pas le TEC que la CEDEAO a mis en place, nos États allaient être des marchés inondés par les produits venant de l'Europe. Parce que, en termes de compétitivité, il n'y a pas match entre nos unités industrielles et les unités industrielles de l'Europe. On allait être simplement un marché où les Occidentaux allaient faire venir. Parce que quand on voit un peu ces rapports, non. Moi, ça veut dire que quand on dit que le texte nous est défavorise, etc., on sort le texte de son contexte. Ce n'est pas comme ça. Mais à contrario, quand on prend la CEDEAO, la libre circulation des personnes et des biens au sein de la CEDEAO, nul ne peut dire que cela vraiment a été handicapant pour le Mali. Ce n'est pas vrai. Parce que tous les produits d'origine...
Mais selon le ministre, cette sortie est une possibilité pour les pays des États de l'AES de protéger les entreprises pour avoir une production locale plus importante.
Ce n'est pas évident.
Ce n'est pas évident.
Ce n'est pas évident.
Pourquoi?
Ce n'est pas évident parce que la couverture est légère en ce moment. Quand on sort de la CEDEAO, la couverture est légère. Et les produits dont on a besoin, que nous ne produisons pas aujourd'hui, ça va rentrer. Et même, on va avoir des problèmes au niveau des rentrées et douanières. Même la douane va sentir ce retrait du Mali de la CEDEAO. C'est moi qui vous le dis. C'est-à-dire que moi, je parlais politique, que l'économie se met à défendre de la politique, va faire sortir certaines choses qui ne sont pas du tout réelles. Est-ce que vous voyez, on est dans ce cas de figure-là. Moi, je pense qu'il n'est pas bon de sortir des grands ensembles pour venir dans des petits ensembles où on n'a même pas de débouchés à la mer. D'accord. Comment on va faire?
D'accord. Selon le ministre, les pays de l'AES sortent gagnants de la CEDEAO quand ils sortent de la CEDEAO économiquement. Vous avez écouté le ministre.
Je te dis.
Je vous pose la question.
Moi, je ne crois pas à ça. Vraiment, je ne crois pas à ça.
Pourquoi?
Je ne crois pas à ça parce que nous sommes dans un milieu où on se dit que 10, quand nous sommes 10, on est plus fort que quand on est 9. Quand on est 9, on est plus fort que quand on est 3. Ça, c'est dit partout. Dieu même l'a dit. Réunissez-vous, unissez-vous.
Mais qu'est-ce que vous proposez pour qu'ils soient réunis?
Est-ce qu'on a demandé notre avis? Nous, on n'a pas demandé notre avis. On n'a pas demandé notre avis. Nous, on a dit au début que pour qu'on sorte de tout ça là, il faut organiser les élections à partir. C'est ce qu'on avait donné comme proposition. Mais on savait que ce n'était pas le chemin. Donc il faut sortir. Ce n'est pas une autre trouvaille qui va leur permettre maintenant de tourner définitivement la page des élections. Sinon, ce n'est pas vrai. Moi, je m'attendais à ce que étant sortis de la CEDEAO, l'AES évolue et dise maintenant nous formons un seul État. Carrément. On n'est même plus AES, nous sommes la même République.
Mais le ministre rassure qu'ils vont établir de bons rapports de voisinage avec les États de la sous-région. Cette annonce est-elle rassurante?
Quelqu'un qui n'a pas pu établir de bons rapports avec la CEDEAO, quelle garantie tu as pour nous dire que tu vas établir? Parce que maintenant tu es sorti. Parce que tu n'as plus la pression de quelqu'un, ça ne tient pas. C'est très facile de maintenir de bons rapports avec la CEDEAO parce qu'on y est. On y est, nous y sommes. On peut débattre d'égal à égal au sein de l'organisation. Mais tu sors, ensuite tu dis on va maintenir. Ça dépend de l'autre là en ce moment.
D'accord. Alors, comment
il n'a pas toutes les cartes entre les mains.
Comment corrigez-vous les imperfections de la CEDEAO pour renforcer davantage sa crédibilité et son efficacité?
Moi, si j'étais un dirigeant de la CEDEAO, j'allais être rectiligne. C'est-à-dire que le coup d'État est banni. Dès que tu fais coup d'État, on vient en te renverse.
Quelle que soit la forme.
Si tu fais tripatriage, là, on vient en te renverse. Et tu organises les élections. Ou bien on te donne un délai. Dans ce délai, tu organises les élections.
D'accord.
Moi, c'est comme ça. Mais non, ici, effectivement, tu fermes les yeux. Par là, tu essaies d'être dur, ça ne peut pas marcher.
D'accord.
Et c'est ce que les gens ont senti, c'est pourquoi personne ne prend la CEDEAO au sérieux.
Nous, Togo, comment corriger les imperfections de la CEDEAO?
Appliquer les textes, il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. D'autres font le coup d'État constitutionnel. Nous sommes en train de suivre la déclaration hier de la CEDEAO concernant le Sénégal. Moi, j'ai été déçu. Alors donc, ça ne peut pas marcher. Il faut que les gens acceptent. Si nous voulons que les textes soient appliqués et il ne faut pas violer ses propres textes. Parce que tu ne peux pas condamner des gens ou donc mettre l'embargo si ce n'est pas dans les textes. Et tu ne peux pas recevoir aussi des directives d'autres pays comme le président Macron.
D'accord. Alou,
oui.
Comment corriger les imperfections de la CEDEAO?
Bon, c'est vraiment... Il faudrait que les textes qui sont là, que tout le monde respecte les textes et que vraiment la CEDEAO elle-même soit correcte avec ces textes. Il y a des textes qui sont là, il faut les appliquer partout. C'est tout. Moi, je pense que la CEDEAO est là pour que
Est-ce que vous avez foi que ces pays reviennent à la CEDEAO?
Hein?
Vous avez foi que ces pays peuvent revenir à la CEDEAO?
Mais pourquoi pas s'il y a des dirigeants élus, mais ils vont revenir à la CEDEAO? Et puis... On n'est pas encore sorti. Vous faites comme si on est sorti. On n'est pas sorti.
D'accord, merci. Merci. Malheureusement, on me fait signe que nous n'avons plus de temps. Nous allons devoir retourner l'antenne à nos radios partenaires. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le retrait de pays de l'AES, de la CEDEAO. Qu'en pense la classe politique? Et nous étions avec Alou Badara Sako, coordinateur par intérim de la coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver sauver le Mali. Alassane Abba, secrétaire général de la coordination pour le développement du Mali, CODEM, et Noun Togo, président du parti Union pour la sauvegarde de la République, ISR, proche du gouvernement. À la présentation, je suis Mranakilo Maïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.